Les cours du Collège de France, Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, asseyez-vous, je vous prie. Non, je plaisante, j'ai vu que vous étiez déjà assis, ça me rappelle... En fait, j'ai soutenu une thèse au XXe siècle, et à ce moment-là, le jury et le candidat, et le public d'ailleurs, devaient être debout, jusqu'au moment où il y avait des choses solennelles qui se disaient. Et moi, je n'avais pas remarqué, j'étais assis et le président du jury a dit à la fin de son speech « vous pouvez vous asseoir ». Et maintenant que j'y pense, je crois que ce n'était pas vraiment pour me mettre à l'aise. Donc je vois bien que vous êtes assis et loin de moi l'idée de vous mettre mal à l'aise, c'est juste le titre de la séance. Asseyez-vous, je vous prie. Asseyez-vous, je vous prie, c'est peut-être la plus impérieuse mais aussi la plus pernicieuse des formules d'autorité. Alors, tout dépend, évidemment, de la manière de le dire. Vous connaissez la dernière phrase du grand livre de Paul Veyne, « Le pain et le cirque », étude magistrale de l'évergétisme romain paru en 1976, il y a maintenant 50 ans, et dont on doit rappeler le sous-titre « Sociologie historique d'un pluralisme politique ». Vous la connaissez peut-être ou pas, mais en tout cas, moi, je la cite souvent, car elle définit, je cite, « les trois enjeux de la politique, qui commande, qu'est-ce qu'il commande, sur quel ton commande-t-il ». Cette phrase, apparemment anodine, « asseyez-vous, je vous prie, mon cher collègue », sonnera donc comme une invitation, un ordre ou une menace, en fonction de qui vous le dit, de qui vous êtes et dans quelles circonstances nous sommes. Car est-ce un maître d'école qui s'adresse à sa classe, un juge qui fait rasseoir le prévenu après l'avoir fait se lever, ou un hôte qui demande à ses invités de s'asseoir à sa table? Mais dans ce cas, y a-t-il un plan de table? Qui a pris la responsabilité de le dresser et selon quel protocole? Si ce n'est pas le cas, asseyez-vous, je vous prie, il n'y a pas de plan de table, c'est pire. Car la charge de la bienséance va peser sur les invités qui doivent prendre l'initiative de donner à voir des proximités et des distances. Qui commande et qu'est-ce qu'il commande? Tout dépend évidemment si celui qui prend la parole pour faire asseoir les autres est lui-même debout ou assis, et si oui, où? Est-ce par exemple un magistrat du siège ou quelqu'un dont l'intonation, la gestuelle, suffisent à elle seule à s'imposer, ou plus exactement à s'introniser? Sur quel ton commande-t-il? Il faudrait le talent de Raymond Queneau dans Exercice de style pour parcourir le nuancier de cette formule de domination « Asseyez-vous, je vous prie », qui peut instaurer toute la gamme des rapports de pouvoir. En tout cas, c'est d'abord un acte de langage, ou à tout le moins une affaire de mots. Saisissez, asseoir son autorité sur un moteur de recherche et vous serez dirigé, c'est le cas de le dire, vers toute une littérature du management dans laquelle, je cite, « prendre le lead », c'est asseoir et faire asseoir. Si vous préférez, vous pouvez ouvrir des dictionnaires. Vous n'y apprendrez pas seulement que le verbe « asseoir », qui, depuis la réforme de l'orthographe de 1990, tolère une forme double avec et sans « e », a la particularité grammaticale de former, ce qui est rarissime, deux impératifs également corrects, « assieds-toi » ou « assois-toi », mais pas « assis-toi ». Je le dis pour d'autres collègues qui seraient éventuellement ici. Vous y découvrirez, dans les dictionnaires, aussi que ce verbe, et surtout que ce verbe relativement récent en français, emprunté au latin populaire « accedere », qui ne veut pas dire « s'asseoir », mais « être assis », ne signifie pas seulement se mettre en appui sur son séant, à terre ou sur un siège. C'est qu'il est porteur, en fait, d'une ambivalence fondamentale relative à ce que c'est que de prendre place. Asseoir sur un trône, asseoir sur le banc d'infamie sont des exemples fréquemment cités depuis le XVIIIe siècle, tandis que faire asseoir à sa table est donné comme l'expression de la volonté d'y admettre ceux à qui on s'adresse ainsi. Le verbe est donc d'emblée escorté de ces métaphores disant la solidité des assises, qu'elles soient architecturales, asseoir des fondations, administratives, asseoir des rentes, et l'on parlera alors d'assiettes fiscales, militaires, asseoir un camp sur des bases solides ou asseoir un cheval. Mais ce verbe récent a tendance à éclipser siéger, qui provient, lui, directement du latin sedere, et qui a donné en français soir. Soir existe encore, mais ne survit plus que comme verbe intransitif défectif pour dire ce qui convient à une personne ou est adapté à une situation dans l'expression seulement il sied. Il sied. Mais la langue juridique peut encore employer une expression telle que la cour d'appel séant à Paris pour dire à la fois qu'elle y siège et qu'elle y tient séance en quelques lieux. À l'article soir de sa première édition de 1694, le dictionnaire de l'Académie française tire tous les fils de cette pelote de sens qui s'enroule autour de la notion de siège. Les différentes nuances de l'assise et de l'assiette renvoient à cette localisation en des bases solides que l'on retrouve à la fois dans l'expression « telle maison sise en tel lieu », mais on les retrouve aussi dans le champ sémantique qui dit la volonté de faire demeure en un seul endroit, résider, résident, résidence, sédentaire, ainsi que dans la volonté de contester cette stabilité, siège, assiégé, assiégeant. Et ce n'est pas tout, car la posture assise du séant ne désigne pas seulement le geste pour qui est debout de s'affaisser ou pour qui est étendu de se redresser sur son séant. Elle dit aussi l'institutionnalisation de cette assise du pouvoir, séant, donnant séance, mais aussi session, l'ensemble étant garanti par le travail des assesseurs. Et cela désigne à la fois le lieu et le temps du rassemblement, voire sa suspension lorsqu'on dit sursoir. Enfin, ce vocabulaire politique de la séance dit la norme morale qui règle nos conduites corporelles, ou plus précisément notre capacité à placer notre corps en un lieu bien séant, signifiant à la fois ce qu'il sied de bien faire et la juste place où l'on doit s'asseoir. Or, cette bienséance est un ordre hiérarchique, puisqu'elle entraîne le droit de préséance, c'est-à-dire de prendre place au-dessus de quelqu'un en le dominant ou devant lui en le précédant. D'ailleurs, présider veut dire exactement cela, occuper la première place dans une assemblée où l'on siège à une place prépondérante. Donc, en fait, vous le voyez, c'est une très bonne partie de notre vocabulaire politique qui procède de ce simple geste de s'asseoir, ou de faire asseoir, ou de consentir à s'asseoir. Et l'on comprend mieux la hargne d'Arthur Rimbaud dans son extraordinaire poème « Les assis ». « Oh, ne les faites pas lever, c'est le naufrage, ils surgissent grondissants comme des chats griffés. » Voilà ce qui m'a donné envie d'achever cette année en explorant cet imaginaire politique, passant des lieux de pouvoir au siège du pouvoir. Car il faut bien aussi comprendre la teneur de cette expression « sedes regni » par laquelle le latin médiéval désigne non pas à proprement parler la capitale, qui renvoie à la tête, « caput regni », mais le lieu, plus exactement les lieux, où on siège à un moment donné, où siège le pouvoir royal, c'est-à-dire l'endroit où il pose son séant. C'est une manière, au fond, de faire voir à nouveau l'image sur laquelle nous nous séparâmes l'année dernière, le dernier mot parodique de cette séquence qui nous amenait de la politique, de l'amour jusqu'au sexe du pouvoir, ce qui nous permettait de nous dessiller le regard sur cet écœurement que provoque le sentimentalisme politique de ces gouvernants qui prétendent nous garder toujours dans notre cœur, caricature, où l'on pouvait voir avec Yann Lignereux, dans le cœur inversé du roi, le cul trompeur du despote. Dans un peu moins d'une heure désormais, une autre image, également de dos, nous signifiera aimablement notre congé. Mais je n'en dis pas plus. Et je me contente pour l'instant de citer Montaigne et au plus élevé trône du monde, nous ne sommes toujours assis que dessus notre cul, là est l'unique siège du pouvoir. On notera au passage que cette phrase célèbre, extraite du chapitre de l'expérience, rédigée entre mars 1587 et mars 1588, constitue presque le dernier mot des essais. Christine Bénévent et Laurent Gerbier l'ont restitué dans la tradition parénétique de l'humanisme, de Budé à Érasme, où le jeu sur le haut et le bas est la satire de la prétention des princes sont destinés à leur prouver la sincérité de leur loyal conseiller, désireux de parler vrai à la face du pouvoir, c'est-à-dire de les ramener aux obscurs fondements de leur autorité, commun à toute expérience humaine, celle du coulus latin, qui trouve d'ailleurs sa première occurrence en français dans le roman de Renard, et dont la littérature du XVIe siècle ne scelle nullement la dimension scatologique. On pense évidemment à Rabelais et sa poétique, ou plutôt sa politique du défécatoire. Il ne s'agit pas seulement de dire qu'il faut du cul ou du culot pour gouverner, mais que le pouvoir est anthropologiquement lié à cette régression infantile que la médecine médiévale appelle mélancolie et le docteur Freud, stade anal. Bienvenue, par conséquent, dans cette dernière séance de l'année où nous allons évoquer différentes manières de s'asseoir, de siéger ou de s'affaisser. On y trouvera donc des bancs de toutes tailles, des lits, des divans, des canapés et même des tapis, puisque nous n'avons jamais suivi jusqu'au bout la leçon de Joinville qui nous enjoignait, voici 2 semaines, à suivre Louis IX de son chêne de Versailles au jardin du palais de la Cité, où, je cite à nouveau cet extrait décisif de l'histoire de Saint-Louis, « il faisait étendre des tapis pour nous asseoir autour de lui, et tout le peuple qui avait affaire par devant lui » se tenait autour de lui, debout. Voilà ce que dit Louis IX avant que l'ordre classique ne l'affuble d'un trône. Asseyez-vous, je vous prie. Mais on trouvera aussi quantité de fauteuils, de chaires, de chaises et même de cathèdres, puisque ces 3 sièges à dossier, siège, chaire, cathèdres proviennent du latin cathedra, dérivant du grec cathedra, qui vient de hédra, le siège, partageant une racine indo-européenne avec sedes. On peut toutefois les classer dans le sens d'une majesté croissante. La chaise est confondue avec la chaire jusqu'au XVIIe siècle, et c'est à ce moment-là que la cathédrale, l'église où l'évêque siège sur sa cathèdre, se substantive au féminin. Jusque-là, et depuis le XIIe siècle, ce n'était qu'un adjectif pour dire d'abord la sedes cathedralis, puis l'ecclesia cathedralis. Bref, nous ne parlerons pas que des trônes et de l'histoire des pouvoirs comme une foire, ou plutôt un Game of Thrones. Et d'abord, écartons une fausse évidence, celle de la salle du trône. Dans la série inspirée du cycle romanesque de George Martin, le trône de fer, énorme, imposant, noir et tordu, écrit Martin, est composé de toutes les épées de ses prétendants. Il est indissociable de la table, de la salle du trône, fermée par des lourdes portes de chêne et de bronze. Mais jusqu'au XIVe siècle au moins, l'architecture palatiale européenne ne connaît pas vraiment de salle du trône. Les espaces y sont distribués selon une distinction fondamentale, bien posée par Georges Duby, entre la aula et la camera, reprenant en la simplifiant la tripartition carolingienne aula, camera, capella. Si la seconde, la caméra, est un espace de retrait, sans d'ailleurs que sa spécialisation camérale, on l'avait vu, ne soit toujours bien nette, la première, aula, est un espace polyvalent qui peut servir de salle d'audience, de banquet et de cérémonie où l'on peut assembler des conseillers et dire la justice. Le roi y siégera alors sur une estrade ou sous un dais, mais sans que cette place ne soit définie architecturalement. C'est le cas à Westminster Hall, à Londres, comme dans la grande salle du Palais de la Cité à Paris. Donc, pour trouver, au fond, où était le plus souvent le trône, il faut chercher des traces indirectes. L'architecture ne le donne pas à coup sûr. Comme l'a montré, par exemple, Christian de Mérindol dans une belle étude, on peut tenter de reconstituer les emplacements et les itinéraires à partir des éléments de décor et d'héraldique qui, eux, restent parfois, ainsi dans les châteaux de René d'Anjou. Mais, en fait, les espaces demeurent essentiellement modulables grâce aux parois mobiles, aux tapisseries qui peuvent cloisonner et hiérarchiser les lieux de pouvoir. C'est particulièrement vrai dans les demeures princières du XIIe siècle, on n'a plus besoin de cette image. Ainsi, repère-t-on en 1177 dans le palais des comtes de Champagne à Troyes. J'emprunte cette notation à la contribution de Dominique Barthélémy dans l'histoire de la vie privée, dirigée par Duby, une cloison de bois qui permet de séparer la chambre et son lit conjugal d'un côté, le thalamus comitis, de la salle de réception, la cloison se prolongeant du côté de la salle de réception par une estrade où le prince préside au banquet en surplomb des longues tables où il fait asseoir ses convives. Sauf qu'à partir du XIVe siècle, on peut mieux repérer des espaces spécialement dédiés à l'audience, comme dans la salle du consistoire du Palais des Papes d'Avignon au temps de Benoît XII, et surtout la salle des ambassadeurs du Palais des Nasrides à l'Alhambra de Grenade, où le trône du sultan se situe dans une alcôve axiale. Et on peut aussi remarquer que cette manière de mettre en scène l'autorité souveraine par le triple dispositif de l'alignement axial, du renfoncement, dans une niche creusée dans la maçonnerie et du rehaussement de l'estrade peut avoir son équivalent dans les palais communaux italiens où les magistrats siègent toujours sur des bancs surélevés au fond de l'estrade, occupant l'espace laissé disponible par l'autorité souveraine. C'est par exemple ainsi que c'est donné à voir au palais public de Sienne. Reste que ce tournant cérémoniel, faisant de la salle du trône non seulement une grande salle où l'on place le siège souverain, mais un théâtre politique permanent fondé sur une scénographie axiale orienté vers une niche creusée au fond de la salle où le trône surélevé est lui-même sous un dais, est sans doute expérimenté au Vatican. La Sala Regia, antichambre de la chapelle Sixtine, est dans la basilique Saint-Pierre, devenue le lieu des audiences solennelles sous Jules II et Léon X, et la décoration est due à Antonio da Sangallo le Jeune, achevé sous le pontificat de Paul III. Là est peut-être le prototype architectural qui trouve son accomplissement dans le Salon del Trono de Philippe II, dans le Palais Royal à Madrid, dans les années 1580, avant de devenir évidemment une norme dans tous les palais d'État du XVIIe siècle, à Versailles et au-delà, depuis le trône d'ivoire du tsar Ivan le Terrible à Moscou, jusqu'au palais de l'Inde moghole. Cette invention de la salle du trône dans les monarchies cérémonielles modernes est en réalité une réinvention. Elle retrouve une conception liturgique de la souveraineté qui a des origines religieuses très anciennes, et il conviendrait ici de convoquer les travaux d'Ernst Kantorowicz sur le rituel Louis XIVien du lever du roi. Dans les bas-reliefs assyriens, par exemple, la chaise haute où l'on se hisse, les pieds toujours posés sur un tabouret, suffit à signifier le roi. Le roi est celui dont les pieds ne touchent pas le sol. Le trône est le signe royal par excellence, désignant la légitimité du pouvoir et la durée de la continuité dynastique qui s'y laisse asseoir. Assoit son autorité gouvernementale, mais aussi liturgique. Ce meuble peut ressembler au fauteuil couvert de feuilles d'or, pieds de félin et tête de lion découvert dans la tombe du pharaon Toutankhamon à Thèbes. S'il prend place dans l'espace cérémoniel du palais, c'est par l'intégration du sanctuaire voué à la dévotion royale à l'intérieur de la maison du roi, à l'époque, pour la Mésopotamie, de la troisième dynastie d'Ur, donc au troisième millénaire de notre ère. Le dios tronus est, en grec ancien, le support des cieux. Et c'est seulement lorsque Zeus prend forme humaine que cet axe du monde prend la forme d'une chaise haute, tronos, qui désigne ce qui soutient. On pense notamment à la description par Pausanias de la statue chryséléphantine de Zeus olympien, par Pausanias, donc fauteuil à haut dossier et pieds rectangulaires. Et lorsque les dieux s'assoient dans les trônes des temples, lorsqu'ils renoncent à dominer de leur haute stature les hommes soumis à leurs pieds, plus forts que les forts, ils rehaussent leur puissance en autorité. Donc, le trône des dieux, c'est l'endroit où, d'une certaine manière, on renonce à la force pour l'autorité en s'asseyant. Le mot « trône » apparaît, d'une certaine manière, dans cette acception, dans la Bible, 176 fois. Il sied à Dieu dans le ciel comme signe de sa souveraineté sur le monde. Mais les rois bibliques sont aussi assis sur des trônes. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur, lit-on dans le livre des rois 1:10-18. Et l'on pense au Moyen-Âge que Jésus va s'asseoir à la fin des temps sur ce trône de Salomon et autour de lui ses 12 apôtres, chacun sur son trône pour juger les 12 tribus d'Israël. Voilà pourquoi, dans le grand palais de Constantinople, Chrysotriclinos, en grec, salle dorée des trois lits, fut le principal espace cérémoniel du pouvoir impérial byzantin du VIe au Xe siècle. On comprend, à lire le De Ceremoniis, que cette grande salle octogonale à coupole sert à la fois de salle du trône, d'audience et de banquet. Et ce modèle impérial est évidemment sublimé dans l'architecture carolingienne, notamment Aix-la-Chapelle. Charlemagne y est dans son palais entre le ciel et la terre, à la place qu'occupe le trône, son trône de marbre, au premier étage de la chapelle, dans la tribune, au-dessus de la foule des fidèles et sous la coupole qui représente la voûte céleste. Sauf que ce trône massif composée de 4 plaques de marbre blanc assemblées par des ornières de bronze et dont on dit au Moyen-Âge qu'elles proviennent du Saint-Sépulcre de Jérusalem, est davantage un reliquaire que le siège du pouvoir. Et puis surtout, on l'appelle trône de Charlemagne, mais il n'est attesté pour la première fois qu'en 936, à l'occasion du couronnement d'Othon Ier. Et jusqu'en 1531, il fut le siège du couronnement de 31 empereurs des Romains. Le trône désigne donc moins le pouvoir que la succession au pouvoir, ce qu'on appelle justement la succession au trône, dès lors que le couronnement est d'abord une intronisation. Ainsi, depuis 1307, tous les rois d'Angleterre, les rois et les reines d'Angleterre, et tous les souverains britanniques depuis l'union de 1707, se sont assis lors de leur couronnement sur le trône du roi Édouard, la chaise du roi Édouard, dite aussi chaise du couronnement. Ce fauteuil gothique, sculpté en chêne, on connaît même le nom de son charpentier, Master Walter, on sait même qu'il a été payé 100 shillings, était recouvert de feuilles d'or, et on ne les voit plus, on ne voit plus aujourd'hui que les graffitis du XVIIIe siècle, eux-mêmes patrimonialisés. Le piétement des 4 lions dorés date aussi du XVIIIe siècle. Le plus signifiant dans ce meuble étant l'emplacement vide sous l'assise du siège. Car c'est là qu'on y loge, vous le voyez dans une gravure et une photographie du XIXe siècle, c'est là qu'on y loge la pierre du destin qu'Édouard Ier avait ramenée d'Écosse en 1296 comme trophée de guerre. Depuis le IXe siècle, en effet, ce bloc de grès était utilisé pour les couronnements des rois écossais dans l'abbaye de Scone. La Lia Feil, ainsi dit-on en gaélique écossais, est l'une des 5 pierres magiques que les Scots ont ramenées d'Irlande, mais la légende veut qu'elle venait en fait d'Égypte, et voilà pourquoi on l'appelle oreiller de Jacob. Sauf qu'il ne s'agissait pas de s'endormir sur cette pierre, mais de s'y dresser. Bon, voilà, ça c'est comme dans Astérix, on se dresse sur la pierre, et lorsqu'on est légitime, la pierre rugit de joie. Si Édouard Ier fait construire sa chaise de commandement, c'est pour y loger la pierre du destin, c'est-à-dire littéralement pour s'asseoir sur ce symbole de la souveraineté bafouée de l'Écosse. Cette pièce sur laquelle les rois d'Écosse se tenaient debout. Et voilà aussi ce que ça veut dire que s'asseoir lorsque on était auparavant debout. Voilà pourquoi la pierre fut volée par des courageux étudiants écossais le jour de la Noël 1950 pour être ramenée en Écosse. On la retrouva. Elle a pu être, je vous rassure, utilisée pour le couronnement d'Élisabeth II en 1953, même si le gouvernement britannique la rétrocéda dans un geste d'apaisement en 1996 et la pierre du destin fut prêtée à nouveau à Westminster pour le couronnement de Charles III le 6 mai 2023. Troublant donc, vous le voyez, la fausse évidence de la fixité des lieux de pouvoir qui dit à la fois l'insistance topographique des emplacements et la succession obstinée des héritages, le trône nous renvoie au contraire aux transports. Les transports géographiques, mais aussi symboliques et émotionnel des sièges du pouvoir. Vous voyez, l'un des trésors du mobilier national, le lieu de mémoire de la monarchie française, notre chaise du couronnement à nous, le trône de Dagobert, pièce maîtresse des musées de la BNF et exposée depuis peu en majesté dans la galerie Mazarin du site Richelieu. S'il se trouve dans un musée, c'est que quelque chose s'est passé pour qu'un pliant de campagne, reprenant les formes antiquisantes de la cella curulis, monté, démonté, sans doute maintes fois bricolé depuis le 8e siècle peut-être, ici le système des tringles a dû casser, là les charnières de bronze qui cèdent, les bandes de cuir formant l'assise à reprendre, jusqu'à ce que la vie d'objet, faite de transport et de transformation, se fige dans la froide assurance des régalias des rois de France. Car dès lors que ce siège, décrit pour la première fois par l'abbé Sugère dans le deuxième quart du XIIe siècle, se trouve rangé derrière le maître autel de l'abbaye royale, il se sacralise en même temps qu'il perd sa fonction. Et lorsqu'il rejoint le cabinet des médailles en 1791, ce n'est plus qu'un trophée s'ornant d'une aura légendaire. J'avais eu personnellement la chance d'aller le visiter en mai 2021 dans l'une des tours du site François Mitterrand. C'était le moment où on organisait effectivement le musée. Le pliant était parmi d'autres trésors, littéralement en boîte, comme archivé dans des étages élevés et encagés où on accédait par les tours. Et on me le présenta d'abord dans une caisse en bois bâché de films plastiques. Il me fit l'effet d'un souverain faisant l'ermite dans sa cabane pour se reposer un peu de l'admiration des hommes. Et bien entendu, il suffisait de déchirer le voile, alors pas d'exaltation, le papier bulle, simplement, pour que sa splendeur réapparaisse toute volute dehors. Et c'est comme si le galbe de la poitrine des panthères formant ses accoudoirs s'arrondissait à nouveau au souffle de la puissance, si on veut vraiment jouer le jeu des régalias. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on le démonumentalise ainsi, eh bien, il exprime avec plus de netteté sa fonction initiale. D'abord parce qu'il s'agit, je l'ai dit, d'une chaise pliante, transportable, qui sied moins à la solennité d'une royauté lourdement établie dans sa capitale qu'au déménagement d'un état nomade. Telle était, on le sait bien, la cour mérovingienne transportant à moyenne distance son pouvoir itinérant de Sedes Regni en Sedes Regni, marquant ainsi un territoire en perpétuel réaménagement. Mais est-on d'ailleurs certain que cet objet renvoie au Haut Moyen-Âge ? Certainement pas à Dagobert. En tout cas, l'érudition a erré en la matière, lui attribuant parfois une origine antique, parfois carolingienne. On hésite toujours, évidemment, face au pastiche des passés continués entre les naissances et les renaissances. Pour en faire l'histoire, il convient donc de repartir archéologiquement de ça. Première attestation documentaire. Au fond, c'est là où il naît véritablement, dans l'inventaire dressé par Sugère, abbé de Saint-Denis, lors de l'agrandissement de l'abbaye royale. Il a, affirme-t-il, fait réparer la noble cathèdre du glorieux roi Dagobert, qu'il avait trouvé, je cite encore, vétuste et disloquée. C'était une chaise, précise-t-il, dans laquelle, selon l'ancienne tradition, les rois des Francs avaient pour coutume de s'asseoir, sédérer, après avoir pris en main le pouvoir, pour recevoir pour la première fois l'hommage des grands de leur royaume. Voici donc posée l'assise d'une continuité dynastique au XIIe siècle, par Sugère, dans l'abbaye de Saint-Denis, sur un trône. Mais c'est évidemment une fiction politique. Pas seulement parce qu'elle active l'idole des origines. Un article récent de Cécile Lagan et Lise Sossius dans Archéologie médiévale rassemble ce que l'on peut savoir aujourd'hui sur l'histoire de l'objet. Un objet sur lequel, je l'ai dit, l'érudition a beaucoup fluctué. Les analyses de fluorescence X ne donnent pas beaucoup de certitude parce qu'en fait c'est un alliage à base de cuivre, donc c'est très difficile à dater. Enfin, c'est avec des conjonctions d'arguments archéologiques et stylistiques qu'aujourd'hui, on peut déboucher sur une hypothèse chronologique d'un premier état, dossier sans accotoir fin 8e, ajout d'accessoires au milieu du 9e, et l'essentiel venant, en fait, de la restauration de Sugère, si c'est une restauration, si c'est pas simplement une invention purement idéologique. On doit rejeter aujourd'hui les hypothèses prétendant que tel ou tel souverain mérovingien ou carolingien se soit assis sur ce siège. On a fait ces hypothèses sur la base de vagues ressemblances avec des représentations iconographiques de souverains siégeant sur des, s'asseyant sur des sièges en X, et c'est pas un siège en X. En réalité, il n'y a aucune attestation, aucune, d'usage de ce siège, ni avant, ni après Sugère. Ce n'est décidément qu'une pièce de musée, ou plutôt une pièce de propagande destinée à asseoir, non pas les rois, mais une conviction, celle que l'abbaye de Saint-Denis, et aujourd'hui la BNF, conserve le trésor des régaliens. Bon, c'est pas tout à fait vrai. On connaît un souverain qui a assurément souhaité s'asseoir sur ce siège. C'était Napoléon, en 1804, pour distribuer des légions d'honneur. Et lorsqu'il pose son séant sur un tel meuble de voyage, eh bien, l'empereur ne cherche pas seulement à s'asseoir sur l'histoire de France, il agissait aussi en conquérant, c'est-à-dire que le côté siège de campagne l'intéresse, la grandeur est dans le mouvement. Bon, la malheureuse chaise a cédé sous son poids, ce qui prouve que c'était manifestement pas fait pour ça. Appelons cela une parabole sur la fonction réelle du trône, la fragilité du pouvoir, et l'imprudence qui consiste à lui trouver des assises dans un passé fantasmé. Mais je vous avais promis de parler de toutes sortes d'assises, de sièges, de bancs, et pas seulement de chaires, de cathèdres et de trônes. Je n'oublie pas que si nous en sommes là, en cette dernière séance, c'est pour avoir suivi Saint-Louis qui, contrairement à l'idée qu'on s'en faisait au temps de Louis XIV, ne trônait pas à l'ombre de son chêne, mais, comme l'écrivait Joinville, s'y accotait et nous faisait asseoir autour de lui. Asseyez-vous, je vous prie. Et puisque son biographe précise qu'il faisait de même en tirant les tapis dans les jardins parisiens, le tapis étant, on s'en souvient peut-être, l'une des figures de l'hétérotopie chez Michel Foucault, ces motifs végétaux étaient toujours susceptibles de faire advenir l'espace autre des hétérotopies. C'est en suivant cette piste végétale que nous tentions, la semaine dernière, de faire le répertoire des positions, le haut, le bas, le proche, le distant, qui configurent la position dans l'espace des êtres parlants, et par conséquent, la théâtralité politique des assemblées souveraines entendues comme scène de parole. Et c'est là, juste à la fin de la séance dernière, que je vous laissais sur cette page de ce célèbre manuscrit enluminé par Jean Fouquet, qu'on appelle le Boccace de Munich, mais je l'avais beaucoup trop sommairement évoqué, me contentant juste de contraster la solennité, la hiérarchie de son ordre figural avec le mouvement de la représentation, toujours, mais au sens politique, de la conjuration peint chez David, où ce qui advient est de l'ordre, effectivement, de la représentation au sens politique, où là, le vent soulève les rideaux pour dire la présence du peuple introuvable aux fenêtres, sans doute, au bord de faire effraction dans la Seine, mais aussi là où nous sommes, là où vous êtes, puisque, effectivement, si on admet que c'est une salle du jeu de paume, alors, effectivement, il y a toute une deuxième partie de la salle où nous jouons aujourd'hui, cette partie de la salle où l'histoire continue. Alors, reprenons, et justement, à partir du motif de ces tentures. Alors, je sais bien que mettre de la moquette sur les murs, c'est un choix de décoration qu'on peut juger douteux. Mais ici, l'effet visuel puissant de la scène judiciaire vient du fait qu'elle est entièrement tapissée. du sol au mur et jusqu'au dais royal, d'un bleu royal fleur-de-lysée, dans lequel se fond littéralement la figure du roi, sa silhouette se perd dans le décor, ce qui est une définition d'ailleurs de la majesté, c'est-à-dire de son paradoxe constitutif que l'on pourrait énoncer ainsi. C'est au comble de l'ostentation spectaculaire de sa justice que le roi se rend invisible. Il se dissout dans ce que Michel Sennelar appelle le fantasme de l'État absolu, mais s'y dissolvant, il devient à la fois indiscernable et omniprésent, comme le sucre dans le café. Il colore l'ensemble de la figure. Parce que, regardez, on pourrait aussi dire exactement l'inverse. On pourrait dire que ce sont les tentures et les tapis qui, unanimement, prennent la teinte de sa robe. Et le personnage central, alors, de la scène, devient la fleur de lys sur champ d'azur que complètent dans les hauteurs les panneaux latéraux rouges, verts et blancs ornés du cerf, c'est-à-dire l'animal, et les couleurs héraldiques de Charles VII. C'est par les moyens propres de la peinture, donc, que Jean Fouquet rend compte de l'extraordinaire de cette scène, qui, par le jeu complexe des perspectives, creuse à l'intérieur de l'image un losange cerné de bancs et de tapisseries, géométrisant le vide, qui est le lieu même de la majestas, puisque la majesté est ce lieu vide qui ne se définit que par ce qui la cerne et la lèse, d'ailleurs, et le roi, lui, flotte au-dessus. Il est le seul à se trouver au-dessus de la ligne d'horizon. Et je dis moyen propre de la peinture parce que tout est affaire de point de vue. Le peintre y parvient en combinant deux constructions perspectives, comme l'a montré Marie-Thérèse Gousset. Celle du bas est curvilinéaire et celle du centre et du haut est bifocale. Et ça permet à la fois de voir de manière surplombante une société parfaitement hiérarchisée par le décor, où chacun est à sa place, et de manière plus rasante, ceux qui sont effectivement, eux, au contraire, ramenés à leur place, c'est-à-dire derrière, c'est-à-dire dehors, comme des figurants que les huissiers repoussent sans ménagement au premier rang. Est-ce que c'est le bouffon Gonel, là, que vous voyez avec son... et sur lequel a écrit Carlo Ginzburg, que l'on voit au milieu de la foule avec son bonnet gris je retente. Ouais, non, ça n'aura finalement jamais marché, ce truc-là, avec moi, en tout cas. Le Gonella, donc, c'est le gars avec qui nous regarde un peu hilar avec son bonnet gris bandé, enfin, cerclé d'une bande d'hermine. En tout cas, il y a un paradoxe extraordinaire, c'est que lui, on peut éventuellement le reconnaître, et que ce sont ceux qui sont exclus de la scène qui bénéficient d'un traitement réaliste des figures, alors que les insiders, ceux qui sont dedans, ceux qui ont gagné une place dans l'ordre cérémoniel, eh ben, ont perdu leur individualité. Car c'est cela que dessine l'arène des bancs de bois où les juges et conseillers du roi se sont assis. D'ailleurs, cet appareil de bois en forme de lit recouvert de tentures d'azur semé de fleurs de lys est au sens propre un lit de justice. L'installer au cœur du château de Vendôme en 1458 pour juger Jean d'Alençon, c'est au sens propre y creuser un espace autre qui est celui où le crime de trahison sera requalifié en crime de lèse-majesté. Nous retrouvons ici tous les thèmes qui nous ont mobilisés durant cette année consacrée à l'histoire des lieux de pouvoir, y compris la réaffectation d'un souvenir passé au présent du changement politique, puisque la séance de Vendôme renoue avec une pratique judiciaire déjà ancienne à ce moment-là, le dernier lit de justice remontant à 1413. Et voilà pourquoi la perspective moderniste de Sarah Hanley, qui estime qu'il ne s'agit là que d'un décor de majesté qui n'a pas de sens politique avant le XVIe siècle, eh bien, à cette analyse un peu rétrospective, on préférera celle de Franck Mercier, qui montre comment il y eut bien un moment Vendôme dans la spectacularisation de la justice du roi et surtout de sa majesté, et que Jean Fouquet a finalement rendu visible ce véritable trompe-l'œil rituel qu'était le lit de justice de Vendôme de 1458, où les 133 conseillers sont comme englobés dans le décor, chacun assis à sa place. Dans quel ordre de préséance les faire asseoir face au souverain? Cette question de l'ordo sedendi, c'est d'abord posé pour les assemblées d'église et notamment les conciles, ceux de Lyon en 1245 et en 1274, sont les premiers, comme l'a montré Fabrice Delivré, à se doter d'ordinations où l'on lit que le pape est hissé sur un pulpitum, donc une estrade, assis sur un faldistoire, donc un siège pliant sans dossier mais doté d'accoudoirs, avec de part et d'autre ses cardinaux, qu'il a face à lui les patriarches d'Antioche et de Constantinople, qui eux occupent des positions surélevées au centre de la nef, et plus loin les évêques, les abbés, les prêtres. Donc il y a les valeurs de position, le haut, le bas, la droite, la gauche, l'avant, l'arrière, qui se combinent pour configurer l'assiette, comme ça qu'on appelle, sitting en anglais, asentar en espagnol, c'est-à-dire la disposition des sièges. Ça, c'est le travail d'Aurélien Peter qui m'a accompagné pendant quoi, 13 ans ? Non, 3. Enfin, beaucoup en tout cas, et dont c'est le dernier coup à lui aussi, donc je le salue et le remercie. Et il sait bien combien d'incessants conflits de préséance dans les assemblées, notamment le Parlement, font l'ordinaire de la lutte politique, comme l'a montré Michel Hébert, et notamment entre les villes. Dans ce cas, le mot de « siège » désigne à la fois l'assiette territoriale de la représentation politique et la chaise, ou le plus souvent la partie de banc, d'ailleurs, sur laquelle s'assoient les députés. Ainsi, la querelle entre Narbonne et Béziers pour occuper la cinquième place aux États du Languedoc dure 10 ans. Elle n'est tranchée que par un arrêt du Grand Conseil donné à Montpellier en 1448. Et cette lutte des places, elle est motivée, y lit-on, tant en lieu et siège comme en parole et opinion. Entendez que si l'on cherche à siéger devant, c'est pour parler avant. Asseyez-vous, je vous prie. Toutes ces histoires de bancs, de sièges, d'estrades s'entendent d'abord, on l'aura compris, comme des scènes de parole. C'est ce qui les rend d'ailleurs immédiatement intelligibles aux ambassadeurs, aux visiteurs étrangers, par-delà les différences culturelles, que ce soit Ibn Battuta à la cour de Mali ou Ruiz González de Clavijo à celle de Samarcande. Car, ainsi que nous l'avons vu à la fin de la dernière séance, même le lettré chinois Chudaran, si convaincu de sa supériorité intellectuelle, doit bien admettre que lorsqu'il rend visite au roi Khmer à Angkor à la fin du XIIIe siècle, il n'est pas totalement dépaysé, ce sont des barbares, mais vous vous en souvenez, leur barbarie ne va pas jusqu'à ignorer ce que c'est qu'un roi. 3 siècles plus tôt, lorsque l'ambassadeur de l'empereur Othon Ier se rend auprès du calife Omeyyad Abdelrahman III de Cordoue, il ne dit pas autre chose. Nous sommes à Madinat al-Zahra en 956. Écoutons ce que dit l'ambassadeur, c'est Jean de Gorce, parce que là, il y a en revanche quelque chose qui le choque. Quand on parvient dans la pièce où le roi demeurait seul, comme une divinité inaccessible ou presque, on vit que tout était recouvert de voiles extraordinaires et qui rendaient le sol identique au mur. Jusque-là, tout va bien. Le roi était assis sur un lit magnifiquement paré. Chez eux, on n'utilise pas, comme ailleurs, des trônes et des sièges. On discute et on mange sur des lits, couchés, les jambes posées l'une sur l'autre. Le mot pour dire « ce lit », c'est « torus » en latin. Et il renvoie alors au mode de vie aristocratique romaine. Le califat se donnant à voir comme une antiquité continuée. Mais le mot qui va très vite s'imposer pour désigner ce sur quoi le souverain musulman reçoit conseil, c'est depuis le XVIe siècle le mot de « divan ». Il devient au XVIIIe siècle le symbole du despotisme oriental, tel que le représente la peinture orientaliste. C'est là où se vautre ensuite l'homme malade de l'Europe, le sultan ottoman, gouverné par ses passions privées, amolli par la paresse et la luxure, et soumis aux caprices des femmes, puisque ce divan est évidemment placé dans l'espace clos du harem. En réalité, ce n'est pas du tout cela. Voyez par exemple cette scène d'audience peinte à la fin du XVe siècle à Herat. Nous sommes bien sur un lit d'apparat, oui, mais devant le palais, et il y a bien une femme, c'est une femme âgée, que le sultan reçoit en audience, à visage découvert, et présentant sa plainte en propre, sans truchement. Car le mot même de diwan, dans sa complexité sémantique, dit tout de cette culture de gouvernement. S'il désigne un meuble souverain, diwan en finit aussi par dire les bureaux de l'administration dans lesquels sont ce meuble. Et l'on remarquera que le vocabulaire de la bureaucratie vient aussi dans les langues latines d'un meuble où l'on ne siège pas, mais où l'on s'attable, le bureau, qui prend le nom du tapis de laine, de bure, avec lequel on le recouvre. En terre d'islam, on parlera donc de diwan de l'armée, de diwan des biens du sultan, de diwan al-insha, la chancellerie. Car il désigne aussi le lieu où l'on enregistre l'écrit. Le diwan, c'est d'abord un recueil de poésie, art arabe par excellence, mais il peut aussi signifier des formes plus pragmatiques d'enregistrement documentaire, je l'ai dit, militaire, fiscal ou judiciaire. C'est que le mot diwan a deux étymologies possibles. La première est arabe et signifie collecter, enregistrer. La seconde est persane et vient de der, le diable. Et donc, il y a quelque chose de maléfique, toujours, dans la poésie, mais aussi dans l'administration, à vouloir enfermer des vies dans des livres. Et ça, cette terreur sacrée, on sait qu'elle était aussi présente dans l'Angleterre du Domesday Book. Retenons en tout cas ceci. Le diwan, dans toutes ses acceptions, recouvre non seulement l'assise de la puissance, mais le commun du politique. C'est la grande leçon du livre de Jocelyne Darlia, « Le divan des rois, le politique et le religieux dans l'islam » paru en 1998. Elle y démontre que la culture de gouvernement de l'islam passe par un certain nombre de lieux communs. Un lieu commun met en commun celles et ceux qui s'y retrouvent et suscite par conséquent, moins l'adhésion que la reconnaissance ou le sentiment immédiat d'identification. Voilà pourquoi le lieu commun, pour préserver la fluidité et l'habilité de son sens, comporte toujours nécessairement de l'implicite. On peut même aller plus loin et dire avec Jocelyne Darlia que la banalité du topos, puisque lieu commun, ça veut dire aussi lieu banal, configure une communauté culturelle. Tous ceux qui admettent comme banal la notion de commun ont quelque chose d'essentiel en commun. Et nous, aujourd'hui, quels sont nos lieux communs? Dans un beau livre récent, intitulé justement « Nos lieux communs, une géographie du monde contemporain », les géographes Michel Bussy, Martin Drozd et Fabrice Argounès en dresse l'inventaire sentimental. À l'article La Fontaine publique, par exemple, on trouve celle de la place de Trévi à Rome, bien entendu, monument à la gloire de son mécène Clément XII, son commanditaire, mais est devenu point de ralliement du tourisme mondial où l'on vient pour s'asseoir devant, sur les gradins, face à elle, regarder et se filmer en regardant. Mais on y trouve aussi le Sabil du Caire ou de Jérusalem et les fontaines ornementales contemporaines avec les miroirs d'eau, par exemple, de Nantes et de Bordeaux, et les problèmes d'aménagement urbain que ces lieux posent aujourd'hui, que les gens puissent s'asseoir, parler et se rafraîchir, disent l'édile et l'architecte, mais que ces lieux de circulation ne deviennent pas des lieux de rassemblement, leur répond le préfet de police. Voilà pourquoi nos lieux communs nous introduit à une géographie critique qui ne visite pas seulement le vieux tilleul de la place du village, mais le stade, mais l'aéroport, mais l'aire de poids lourd et les data centers. Banal ou inaccessible, ces lieux sont chez soi, dans le coin, ensemble, en mouvement, invisibles ou ailleurs. Je viens d'énumérer les 6 portes d'entrée de l'inventaire, car celui-ci intègre aussi la critique en dédain culturel qu'on a pu faire à la notion de non-lieu, développée par l'anthropologue Marc Auger en 1992. D'ailleurs, la même année, Annie Ernaux écrivait dans son journal du dehors « La sensation et la réflexion que suscitent les lieux ou les objets sont indépendants de leur valeur culturelle et l'hypermarché offre autant de sens et de vérité humaine que la salle de concert. L'amour des lieux, pour reprendre le titre d'un essai récent de Thierry Pacot, est un sentiment exigeant qui consiste à s'éprendre de ce dont on doit se déprendre, à se sentir habité par les lieux que nous habitons sans pour autant se soumettre à leur emprise. Dans sa poétique de l'espace, Gaston Bachelard appelait cela une topophilie. Et cela passe sans doute par des formes d'appropriation. On entend par là simplement ce que Charlotte Murgier appelle la sensation et la saisie de ce qui est propre à soi-même, mais des appropriations non propriétaires. On retrouve ici la question des lieux communs ou de notre capacité à se faire anarchitecte de l'ordre urbain afin d'y creuser des espaces autres. Au fond, c'est toujours la question foucauldienne qui se pose à nous. Nous avons toute cette année cherché à décrire des lieux de pouvoir et cette recherche nous menait invariablement et aujourd'hui encore au corps, à la parole et au corps des êtres parlants, là où gît la vérité du pouvoir, là où est son lieu propre. Et ce lieu est propice à tous les renversements. Aussi aurait-on dû, sans doute, chercher avec plus d'attention les lieux où ne s'exerce pas le pouvoir. Non pas les non-lieux du pouvoir, cela n'existe pas, ni les lieux du non-pouvoir, pas davantage. Mais peut-être les lieux à partir desquels, pour le dire toujours avec Foucault, nous ne sommes pas tellement gouvernés. Mais ces lieux existent-ils seulement ? Il y a quelques semaines, un passant m'abordait dans la rue, m'avait reconnu, il nous écoute à distance, donc je le salue. Il m'a dit « Ouais, c'est pas mal votre histoire ». Des lieux de pouvoir, là, mais c'est un peu monumental, c'est assez pompeux. Pourquoi vous ne nous parleriez pas des bancs publics ? C'est vrai, ça, pourquoi pas ? Alors, quelques mots sur eux, il n'est jamais trop tard pour ne pas tenir ses promesses. Rendons-nous, si vous le voulez bien, à Florence, dans la chapelle Sassetti de la basilique Santa Trinita de Florence. Domenico Guirlandaio a peint dans les années 1480 la confirmation de la règle de Saint François et nous le voyons, le pape trôné et le dispositif des escaliers et la cathèdre et les rambardes de bois et les tentures qui ordonnent et hiérarchisent la scène. Mais c'est pas cela qui m'intéresse. Voyons plutôt ce qui se passe derrière, où une foule apparemment désordonnée vaque dans l'espace public. On reconnaît à gauche le Palazzo Vecchio et au centre la Loggia della Signoria, qu'on appelle alors Loggia Lanzi, avant qu'elle ne s'embellisse ou qu'elle ne se dépolitise ou qu'elle ne s'encombre de statues, vous vous souvenez, qui prennent la place des citoyens assemblés. Et que font-ils ces citoyens assemblés si on s'approche ? Ils s'assoient et ils parlent. Et où le font-ils ? Sur ces bancs qui bordent tous les édifices publics et qui rendent ces édifices publics en autorisant leur usage commun. Ces banquettes furent construites dans les années 1374-1382 et peuvent se voir encore aujourd'hui. Cette ringhiera peut ainsi transformer l'espace cérémoniel de la place, tantôt en amphithéâtre politique, tantôt simplement en lieu des conversations privées. On retrouve d'ailleurs la même ambivalence dans la fresque peinte par Lorenzetti. Les banquettes sont à la fois les estrades sur lesquelles siègent les vertus publiques et les bancs publics où l'on s'affaire à des conversations privées, et même où on joue à des jeux interdits. On remarque d'ailleurs que ces distractions sont masculines. La réglementation urbaine précise toujours que les femmes n'ont pas le droit de s'attarder sur ces bancs. La présence des bancs publics à Florence a fait l'objet d'une très belle étude d'Yvonne Eldet, intitulée « Seats of Power ». Car évidemment, on n'en sort pas. Il faut bien que quelqu'un ait le pouvoir de dire « Asseyez-vous, je vous prie ». Dans une architecture publique, c'est la phrase urbaine qui énonce cet ordre ou cette invitation. Mais là encore, le banc n'échappe pas à l'appropriation de mécènes bienveillants. Et en ce sens, la Florence médicéenne apparaît bien comme la préfiguration d'une ville américaine au temps où elle était encore gouvernée par des donateurs qui mettent leur nom sur les bancs et pas des prédateurs. L'architecture humaniste du Quattrocento use du portique, de la loggia, comme d'une forme raffinée d'empiètement du privé sur l'espace public. Voilà pourquoi elle est à Florence, comme ailleurs, la cible théorique de toutes les réglementations contre les encorbellements. Mais là encore, on peut compter sur le De re edificatoria d'Alberti, qui nous a accompagnés aussi cette année, pour que leur mise en beauté assagisse les jaloux et qu'elle apparaisse comme, non pas une capture du bien commun, mais comme un don à la collectivité. Et nous retrouvons ici Paul Veyn et le pain et le cirque. Voilà pourquoi le Palazzo Medici, construit par Michelozzo, pour Côme de Médicis, entre 1444 et 1459, adopte à la fois un refus albertien du faste ornemental et de l'ostentation tapageuse, opposant à la rue le trait net de sa façade, empreinte de gravitas romaine, mais elle fait pourtant un pas vers l'extérieur, elle s'y avance par une banquette continue où l'on peut s'asseoir, oui, mais à l'ombre du pouvoir. Qui commande ? Qu'est-ce qu'il commande ? Sur quel ton commande-t-il ? Non, décidément, on ne s'en sortira pas ainsi. Inutile d'aller chercher dans les villes du passé une terre promise du commun. Il n'y a pas de lieu sans pouvoir, il n'y a pas de pouvoir sans lieu. On peut aimer les lieux, mais il n'y aura pas de retour possible vers la ville heureuse. Asseyez-vous, je vous prie. Bien. Je me lève et je me casse. Mieux. Alors, je vous laisse. Vous levez, vous restez, vous faites ce que vous voulez. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine, ici même. Nous parlerons d'une forme de vie, d'une force de vie, d'une vie infâme, si possible, d'une vie infime aussi, aurait dit Michel Foucault, devenu cendre dans les quelques phrases qui les ont abattues. Vie de qui ? Ben, vous le saurez bien assez tôt. Suspense. Et puis, quel titre je pourrais donner à ce cours l'année prochaine ? L'écriture ou la vie, c'est déjà pris. Le pouvoir et la vie, ça a été pris aussi. C'était, je me souviens, c'était un académicien, hein, oui, qui était aussi, pour vous mettre sur la piste, un ancien président de la République française. Je me souviens qu'en 1981, il n'avait pas été réélu. Ça, c'était juste pour dire le suspense, c'est le moment de, du cliffhanger, le moment où ça bascule. Oui, un ancien président de la République, ça me revient maintenant, qui n'avait pas été réélu et qui l'avait assez mal pris. Et qui avait pris congé de nous comme ça, vous vous souvenez.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.